Bienvenue dans La Lumière d'une Rencontre, le podcast d'Ombre et Lumière réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, nous vous proposons une rencontre avec un témoin concerné par le handicap ou la maladie, en lien avec le dossier du numéro en cours. Il nous partage son histoire traversée par l'épreuve et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. À l'occasion du numéro de septembre, dont le dossier est consacré à la place des personnes handicapées dans l'Église, nous avons tendu le micro à Dominique Cochelard.
Donc, bonjour Dominique Cochelard.
Bonjour Guillemette.
Merci de m'accueillir chez vous à Templemar, près de Lille, oui. Et d'accepter de livrer votre témoignage pour notre podcast La Lumière d'une Rencontre. Vous avez 62 ans, oui. Et êtes porteur d'un handicap moteur depuis l'âge de 6 mois, à la suite d'un vaccin antivariolique. Cela ne nous a pas empêché de devenir docteur en pharmacie et enseignant-chercheur, puis de vous marier avec Astrid, qui est assise à côté de vous aujourd'hui. Vous avez eu ensemble 3 filles. En 2016, pour le diocèse de Lille, vous êtes ordonné diacre, oui. Et êtes responsable en couple depuis 4 ans de la pastorale des personnes handicapées, la PPH, et ce toujours pour le diocèse de Lille. Aujourd'hui, nous vous tendons le micro pour que vous nous racontiez votre chemin de foi et votre regard sur la place des personnes handicapées dans l'Église. Alors, commençons.
Oui.
Tout d'abord, voilà, le fait que votre handicap ait été causé par un effet indésirable a dû être pas facile tous les jours à porter. Vous êtes né dans une famille pratiquante, catholique pratiquante, mais vers l'âge de 18-20 ans, alors que vous commencez vos études, vous décidez de ne plus pratiquer. Pourquoi ? Est-ce que ça a été aussi lié à votre handicap ? Expliquez-nous.
Oui, ça a été lié à une certaine libération, entre guillemets, que l'on vit lorsqu'on quitte le cocon familial. Mais il y a tout un cheminement par rapport à ça. Vous savez, mon handicap, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Hein. C'est le regard des autres qui vous font apercevoir de votre propre handicap. Moi, dans ma famille, on n'en parlait pas, tout ça, mais c'est à partir de l'âge de 5-6 ans que j'ai commencé à vivre les sentiments de moquerie, de pitié, et après, de peur et d'indifférence. Voilà. Moquerie, bon, c'est normal, bon, puisque j'ai quand même été un an en centre de rééducation au centre Max Otley à Lille, et donc j'ai voulu quitter ce centre pour intégrer une école d'enfants dits normaux, après, mais je ne me suis jamais aperçu que ça allait être très dur, quoi. Parce que quand on est enfant handicapé, je boitais, je bégayais à l'âge de 6 ans, donc j'étais vite le mouton noir. En plus, c'était encore des écoles séparées, donc école de filles et école de garçons. Et donc, entre mecs de 6-7 ans, on est très très dur, quoi. Voilà. Voilà. Alors, de temps en temps, je réagissais avec mes poings, mais bon, ça ne suffisait pas, quoi. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est un truc dont je n'ai jamais voulu parler à mes parents, parce qu'on est très, très vite conscient de la charge qu'on impose, entre guillemets, à nos parents, de par la prise en charge de notre handicap. Et donc, je n'ai jamais parlé de cela à mes parents. De ce que je pouvais subir en termes de moquerie ou de pitié. Voilà. Donc le sentiment de pitié est venu plus dans les années collège. Bon, bah, j'étais toujours porteur du handicap, peut-être un peu moins visible, mais quand même. Et comme j'étais assez intelligent, quoi, je tenais toujours le haut du pavé, quoi. Je partageais la première place ou la seconde place de la classe avec un ami. Et donc, j'ai d'autres copains de classe qui sont venus me voir en me disant « Oui, bah, écoute, on veut bien te protéger, mais tu nous fais nos devoirs. La pitié, je te prends sous mon aile, mais il faut que tu payes quelque chose. » Voilà. Sentiment différent de la compassion. Hein, parce que de temps en temps, dans l'esprit des gens, on confond pitié et compassion. Non, compassion, on est tous sur le même plan. On est tous sur le même pied d'estal et on accompagne l'autre dans sa souffrance. Tandis que la pitié, il y a forcément quelqu'un qui est dominant et quelqu'un qui est dominé. Et ça, ce n'est pas bon. Quoi.
Une relation qui voilà. Est ajustée.
Voilà. Alors, dans les années lycée après, j'ai vécu la peur et l'indifférence. Parce que les années lycée, là, c'était devenu mixte. Donc, voilà. Bon, bah, les collègues féminines de classe, bon, bah, voilà quoi. Bon, bah, elles ne s'intéressaient pas à quelqu'un qui était handicapé, quoi. Bon, et c'est l'époque quand même où on est ado. Donc, où est-ce qu'on cherche un petit peu à plaire, malgré tout, quoi. Hein? Bon, et donc, voilà, donc la peur, ou bien l'indifférence, parce que je sentais qu'on organisait des petites soirées, voilà, dans ma classe, hein, et j'étais jamais invité. Alors, je vous fais remarquer par là que le sentiment d'indifférence, c'est le seul sentiment contre lequel on ne peut pas se battre. Peur. Pitié et moquerie, on peut se battre contre ça. Dire à l'autre qu'il ferait bien d'arrêter cela, quoi. Parce que quand ça atteint votre dignité, bon, ça commence à faire très très mal. Mais l'indifférence, on ne peut pas lutter contre ça, puisque l'autre se moque complètement de ce que vous pouvez vivre et de vos souffrances. Et c'est à ce moment-là que je me suis refermé comme une huître, un peu, quoi. Et donc, entre deux, on ne parlait de moi qu'en termes de problèmes, qu'en termes de problématiques. Par exemple, pour passer mon brevet des collèges, j'ai dû le passer avec une machine à écrire. Voilà. Et donc, il a fallu demander l'autorisation au rectorat à l'époque. Pour passer mon baccalauréat, c'était pareil aussi. On n'était que des problèmes. La personne handicapée et l'adaptation à la personne handicapée posaient problème. Voilà. On fait pour, mais ça nous fait souhait. Et quelque part, il faut faire des choses de plus pour ça. Et puis, non, 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 ça nous embête. Alors que lorsque j'ai découvert l'université, c'est la première fois où on parlait de moi en termes de projet.
D'accord,
Voilà.
non plus problème.
Dominique, malgré son handicap, bon, bah, il va pouvoir faire ses études de pharmacie. On l'aidera en travaux pratiques s'il faut et tout ça. Mais il ne faut pas que ça l'empêche de devenir pharmacien s'il le veut. Voilà. Alors vous comprenez bien que par rapport à ce retournement de situation, de passer du mode problématique au mode projet, voilà quoi. C'est pour ça que j'ai voulu choisir les études de pharmacie. Et donc, voilà, donc j'étais enfin admis en mode projet. Je me sentais déjà un petit peu inclus.
D'accord.
Voilà.
et
Voilà.
pour autant c'est quand même à ce moment-là que alors
Voilà.
que ça va
Alors,
mieux
c'est
entre
à ce moment-là
guillemets.
que j'ai quitté le chemin de foi. J'avais un papa qui était animateur de paroisse, donc je l'entendais fredonner les chants qu'il avait entamés tous les samedis et tous les dimanches. Bon, bah, donc quand même une certaine ambiance, quoi. Et puis, bon, bah, le fait de quitter le cocon familial, bon, j'ai quitté toute cette pratique. Bon, bah, parce qu'on découvre les amis, on découvre les soirées. On découvre les copains, les copines. Et donc, bon, bah, le chemin de foi, c'est tout, on l'abandonne. Et pourquoi aussi? Parce que c'est l'âge où on se sent fort, soit tout seul. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans un marasme psychologique pas possible, quoi. Hein, toutes les blessures que j'avais vécues et qui n'avaient pas été guéries en moi faisaient que, bon, bah, ma locomotive était chargée d'épreuves et qu'elle avait déjà du mal à avancer, quoi. Voilà. Et donc j'ai vécu mes études de pharmacie un petit peu dans ce marasme-là, psychologique. Et bien sûr, bon, bah, à la fin de mes études de pharmacie, arrivé ce qui devait arriver, bon, bah, j'ai fait la connaissance d'une fille. Ça a tenu 15 jours. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas supporté, simplement. Voilà, donc bilan complètement catastrophique, quoi. Hein? Bon, bah, une série d'épreuves qui n'avaient pas été remises, mener ma vie à la force de mes poignets aussi, et de mes mains, voilà, sans aucune aide, surtout pas celle de Dieu, un hein, bah, je m'en étais écarté. Voilà le bilan, quoi, triste, très très triste. Et donc, j'ai décidé de mettre fin à mes jours, bien qu'étant reçu aux examens, hein, bien que ceci, bien que cela, tout allait bien, sauf l'essentiel. Le cœur n'y était plus et l'esprit n'y était plus, quoi. Alors, la machine, elle s'est arrêtée suite à cette nouvelle épreuve de la séparation avec la fille avec qui j'étais. Donc, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Et juste au moment de faire le geste fatidique, il y a une petite voix qui m'a dit Eh ben, Dominique, accepterais-tu que je mène ta barque un petit peu? Voilà. Bon. Mais je n'ai su que cette voix-là que 4 ans après que c'était le Christ qui m'avait parlé. Voilà.
Donc vous avez entendu.
Une voix. Et puis à ce moment-là, j'en avais tellement marre que de toute façon, je lui ai dit oui, je veux bien, mais si tu me déçois, je refais la tentative de suicide et je ne t'écoute plus.
C'est un deal.
Bon, un deal que j'ai toujours quelque part, au fond de moi, de toute façon, ça reste. Mais comme le Seigneur ne m'a jamais déçu, Bon, et puis, je peux vous dire que lorsqu'on fait une tentative de suicide, psychologiquement, on est carpette. Une vraie carpette. Et j'ai d'ailleurs déclenché une hémorragie intestinale à ce moment-là. J'ai fait une grosse crise d'anémie. Alors l'anémie, c'est le manque de fer dans les globules rouges. Donc on perd ses forces en 15 jours de temps, mais on met 3 ans à les récupérer. Je peux vous le dire clairement, ça. Bon, quand on monte un escalier, on a le cœur qui bat à 140. On se demande pourquoi. C'est ça. Et puis donc, le Seigneur, par rapport à cette petite voix à laquelle j'avais dit oui, je veux bien t'écouter, il a commencé à mettre des balises sur mon chemin, notamment à travers des amis croyants. Ces amis croyants m'ont remis les yeux en face des trous. Ils m'ont dit, mais regarde Dominique, tu es handicapé. Regarde-toi dans une glace. Parce que j'avais fait un déni de mon handicap. Je me croyais totalement normal, comme les autres. On m'a dit non. Regarde-toi dans une glace. Aie le courage de te regarder dans une glace. Et puis, à partir de là, bien sûr que je me suis pris une claque, mais j'ai accepté ce handicap. Attention, hein. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, ce handicap n'est toujours pas accepté à 100%. Hein. Et je pense que le dernier jour de ma vie terrestre, je ne l'aurais pas encore accepté. Mais une grande partie a été guérie. Voilà. Alors, par rapport à ce chemin de foi, c'est l'époque, les années 82-83, où j'ai rencontré les groupes de prière du renouveau. Cette façon de prier Dieu, ça m'a fort plu, parce que des gens qui osaient mettre leur misère et les partager à Dieu en groupe, quand même, c'était fort formidable. On pouvait partager sa foi, enfin.
Et c'est un ami qui vous propose de rejoindre le renouveau charismatique.
Voilà, c'est un ami qui m'a proposé de rejoindre leur renouveau, Bruno.
Et vous aviez à peu près 25...
Il fréquentait un groupe de prière.
Et vous aviez à peu près quel âge à ce moment-là?
J'avais 24 ans, voilà. Donc ça a été très vite, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités, comme on dit. Je suis devenu berger du groupe de prière que j'avais fréquenté. Parce que la dame qui était berger est devenue trop vieille, donc je l'ai un petit peu remplacée. Et j'ai fait partie après de l'équipe diocésaine de l'animation du renouveau charismatique. Donc on rendait compte à l'évêque de ce qui se passait au niveau des groupes de prière dans le diocèse de Lille.
Et qu'est-ce qui vous plaisait, vous parlait
Ça me plaisait énormément, là-dedans. Parce que cette façon d'invoquer l'Esprit Saint, il y avait des rites comme l'effusion de l'Esprit, qui était très belle en fait. On remettait sa confirmation à nouveau dans les mains de Dieu. Hein. On passait un coup de savon dessus, pour que ça reluise un peu, et les gens étaient repartis pour un tour, quoi. C'est formidable, cette façon de le faire. Et il y a un autre truc que j'aimais bien aussi, c'était les groupes de compassion, en fait. Les groupes qui priaient sur des personnes en particulier pour remettre des choses lourdes, quoi, entre les mains du Seigneur.
D'accord.
Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on s'est d'ailleurs connu à Astrid et moi dans un groupe de prière. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'étais trop mal pour me mettre en couple à cette époque-là, hein, il fallait le temps qu'on se reconstruise, quoi.
D'accord.
Voilà. Parce que le Seigneur, quand même, hein, il vous envoie vers les autres, mais j'ai remarqué qu'il vous envoyait, il fallait que vous soyez un minimum guéri vous-même. Parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas un minimum bien soi-même. Je dis bien un minimum bien.
Oui, bien
sûr. Voilà, parce que c'est super important en termes d'équilibre. Bon, ma part, de temps en temps, on partage avec des personnes qui vous confient des choses très très lourdes. Et donc, il faut savoir le porter, ça. Et l'apporter devant le Seigneur. Surtout pas de porter ça soi-même, parce qu'on croulerait après. Mais il faut avoir la disponibilité et la force de porter ça devant la croix du Christ après. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Et à ce moment-là, est-ce que vous fréquentez aussi une paroisse où vous restez davantage avec la communauté du Rwanda?
Alors, je fréquentais la paroisse de Maubeuge. Bon, puisque j'étais très présent en lien avec mes parents encore, je revenais tous les week-ends sur Maubeuge. J'étais devenu animateur de paroisse moi-même sur Maubeuge. Et mon papa étant handicapé, il a fait un accident vasculaire cérébral entre deux. Donc, je m'occupais un petit peu de la maison parentale le week-end. Je faisais ce que je pouvais, quoi. Okay. Les courses, l'entretien de la pelouse, un petit peu d'entretien de maison. Et ça me plaisait beaucoup. Jusqu'au temps où je me suis marié, d'ailleurs. Voilà. Donc, ma paroisse, à l'époque, jusque dans les années 90, c'était Maubeuge.
Okay. Et vous vous sentiez... à votre place, hein, ou c'est pas forcément...
Je me sentais très très bien intégré. Okay. Les prêtres, eux, de l'époque, étaient super accueillants. Les paroissiens avec qui je préparais les célébrations étaient super accueillants. Vraiment, je ne me sentais pas handicapé. Inclus. Peut-être parce que je rendais des services aussi, quoi. Voilà. Mais bon, oui, c'est vrai que d'un point de vue inclusion en termes de bâtiment, on n'y était pas encore, quoi. Il fallait gravir des marches pour aller dans nos églises, tout ça. On n'y pensait pas encore à cette affaire-là, quoi.
Alors, je précise quand même que vous ne vous déplacez pas en fauteuil.
Non.
Donc, pour vous, c'est pas...
Voilà, c'était pas trop compliqué pour moi que de gravir des marches. Mais bon.
D'accord.
Voilà.
Et donc, effectivement, vous parlez de votre rencontre avec Astrid.
Oui.
Et justement, donc, en 2001, donc, alors que vous êtes mariée donc, depuis 11 ans, un diacre donc, de votre paroisse vous parle du diaconat.
Oui.
Pour la première fois, j'imagine.
Oui.
Et donc, vous y réfléchissez sérieusement en couple. Mais donc, à cause d'un souci de santé de l'une de vos filles, donc, vous en avez trois, vous remettez à plus tard ce discernement. Et c'est finalement en 2011 que vous commencez cette formation vraiment pour devenir diacre.
L'année
1, voilà.
Voilà.
Et donc c'est en octobre 2016 que vous serez donc ordonné.
Voilà.
Et voilà, est-ce que c'est finalement...
C'est encore un parcours de foi particulier, ça. Parce qu'on a quand même vécu avec le souci de nos filles qui avaient des problèmes de santé. Ah, c'est vrai que quand on partait en week-end de formation, elles étaient assez grandes pour rester ici seules, mais il y avait toujours l'arrière-fond d'un souci de santé, quoi. Voilà, quoi. Et l'année où j'ai été ordonné, c'est-à-dire en année 5, en fait, j'ai vécu moi-même de lourdes opérations du dos, arthrose cervicale, donc deux vertèbres qu'on soude au niveau du cou, et arthrose lombaire en bas de la colonne vertébrale. Donc tout ça en trop moins de temps. Et malheureusement, l'arthrose lombaire, il y a eu des effets indésirables. J'avais ma jambe gauche qui ne marchait plus pendant un mois ou deux. Donc tout ça en sachant qu'on allait être ordonné quelques mois après. Du coup, comme on doit écrire une lettre à l'évêque pour dire qu'on est prêt à recevoir l'ordination, j'ai dit à Monseigneur l'évêque, écoutez père, je suis au fond de mon lit 24 heures sur 24. Si vous ne sentez pas pour moi l'ordination, dites-le simplement. Mais sachez que je vis mon propre chemin de foi, même si ce n'est pas en formation, en week-end de formation. Et tout ça, ce à quoi il m'a répondu, tout chemin de foi est valable. Donc, vous pouvez aller vers votre ordination, tout chemin de foi est valable. Et vous priez certainement autrement, mais vous priez peut-être aussi bien qu'en allant en formation diaconale. Et c'est vrai que c'est des moments durs en même temps, mais très très beaux. Où est-ce qu'on se retrouve face à face avec le Seigneur? Vraiment, quand on n'a que ça à lui donner, on lui donne, quoi. Tout simplement. Bon, et j'avais de la chance d'avoir un ordinateur portable sur ma table de nuit à côté. Donc, je faisais quand même la prière selon les lectures du jour, quoi, hein, ce qu'on appelle, voilà, quoi, les lodes, voilà, etc., etc. Mais j'ai vécu ça comme un moment de débranchement de la vie. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où tout s'accélère, mais pour nous, les personnes porteuses de handicap, ça s'accélère trop vite. On ne supporte plus cette accélération et le fait que les gens se bousculent pour courir, faire quelque chose. Nous, ben, on ne peut pas courir, on ne peut plus courir. Bon. Donc on le fait, mais à notre rythme.
Et je me demande comment cet appel au diaconat, comment vous l'avez reçu ? Enfin, est-ce que vous disiez, ah bah voilà, malgré mon handicap, je peux servir Dieu ? Qu'est-ce qui a un peu émergé en vous ? Peut-être d'abord vous, Dominique, et après peut-être Astrid, vous pourrez nous dire un peu comment vous avez vécu ça.
Alors l'appel au diaconat, moi j'ai reçu ça comme une... comme la poursuite d'un cheminement, quoi. Longtemps, j'ai dit à Dieu dans mes prières, mais comment est-ce que je peux être utile à toi ? Bon, j'avais pensé à la prêtrise, hein, à une certaine époque de ma vie, bien sûr, avant de recevoir la vocation au mariage. Mais j'avais pensé à tout ça. Bon, c'est normal. Un homme de 25, 26 ans, qui est encore célibataire, bon, il peut se poser ce genre de questions-là quand il chemine dans la foi. Et puis, je disais au Seigneur, même en étant marié et père de trois enfants, comment est-ce que je peux me rendre utile ? Bon, bah, je faisais déjà des témoignages, hein. Bon, bah, mais j'avais envie de me rendre utile autrement, et je m'étais ouvert à ce genre de propositions. Ce qui fait que ça m'a étonné, mais ça ne m'a pas choqué, en fait.
Voilà. D'accord.
Voilà. J'ai dit, ben oui. On me demande là, bon, c'est qu'il y a des gens qui ont ressenti ça pour moi, donc bon, bah, pourquoi pas y aller, quoi, simplement. Mmh. Et puis je pense que bon, je suis très très ignatien, moi, dans ma foi. Il y a une petite phrase de Saint Ignace qui me touche beaucoup, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Donc j'étais persuadé que Dieu allait me donner tout dans mon parcours de diaconat, si tel était son désir, quoi. Voilà.
D'accord. Donc voilà. Vous l'avez vu comme une forme de continuité.
Voilà. Voilà, comme une continuité de mon chemin de foi. Et c'est vrai que, comme l'appel à être responsable de la pastorale des personnes handicapées,
On en reparlera peut-être un peu après.
Oui, voilà, ça. Voilà.
Bon, et peut-être Astrid, voilà. Oui, vous, comment vous l'avez vécu quand on a proposé à votre mari ? Parce que l'épouse a une place importante dans ce choix, dans ce discernement aussi.
Oui, l'appel au diaconos, c'est effectivement un appel en couple et même avec les enfants. Mm-hmm. Le père évêque est venu à la maison, on a beaucoup discuté avec les enfants et avec nous deux. Et puis, pour mettre le père évêque en face de nos limites. Donc, on lui a dit, voilà, Dominique a des problèmes de dextérité dans les mouvements, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et le père évêque m'a répondu, Astrid, vous serez les mains de votre mari. Et donc, ne serait-ce que pour donner la communion, geste que Dominique ne peut pas faire. Eh bien, en fait, moi, je suis les mains de Dominique, et Dominique donne la parole. Et donc, c'est un engagement qui nous tient vraiment à cœur. Et effectivement, je suis ses mains, de façon discrète. Mais voilà, on est à deux, et puis c'est un cheminement. Et les enfants sont très, très heureux, et nos beaux-enfants aussi, sont très heureux de cette démarche, et nous encouragent à chaque fois. Mais si, vous êtes capable, si, vous savez faire. Et puis voilà.
Et peut-être, qu'est-ce que cette ordination a suscité, voilà, chez, quand vous me dites vous êtes les mains de Dominique, qu'est-ce que ça a suscité chez les autres paroissiens en vous voyant, voilà, donc diacre, vous, Dominique, et à deux, voilà, par exemple, faire la communion ou faire d'autres choses, mais...
Les paroissiens ont accueilli ce geste de façon unanime. Ils ont vraiment été... Ils ont bien compris, on n'a pas dû expliquer. Ils ont compris notre démarche. Bien sûr, on était connus à la paroisse avant l'ordination, mais notre démarche a été naturelle. Et jamais, jamais personne n'a fait de réflexion à ce sujet. Et au contraire, ils aiment venir vers nous et il n'y a vraiment eu aucun frein à ce sujet. Donc la paroisse nous a accueillis vraiment à cœur ouvert et nous a accueillis tous les deux.
Il y en a beaucoup qui trouvent que le geste de donner la communion ensemble, ça fait qu'on remplit notre ministère diaconal. Voilà, parce que moi, je ne conçois pas mon ministère diaconal seul. Je le conçois en couple. Parce que, comme je vous le disais, on a vécu la formation ensemble, et c'est ensemble qu'on est en mission. Ça rappelle l'évangile de dimanche dernier. Jésus envoyait les disciples deux par deux. Nous, on est envoyés deux par deux en mission diaconale.
D'accord, oui. Et est-ce que vous sentez que dans votre paroisse, c'est un peu, je sais pas, pas forcément dire que vous avez été vous avez permis d'unifier les personnes autour de vous, mais je sais pas, est-ce que au-delà du geste de la communion, ça a suscité un peu d'autres fruits
par rapport à notre vie diaconale à la paroisse? Il y a beaucoup plus de respect vis-à-vis des autres personnes en situation de handicap. Il y a toujours une place pour celui qui sera en fauteuil, et la première place, c'est devenu naturel. On ne doit pas aller vers cette personne en disant « avancez-vous ». Non, on lui fait la première place. Et ça, c'est dans la paroisse quelque chose qui nous touche beaucoup. Et que ce soit les enfants en situation de handicap, ils ont toujours la première place. Même si la personne parfois peut déranger, elle aura quand même la première place. Je vous donnerai l'exemple de Martin, qui a 26 ans et qui est polyhandicapé, et qui sait s'exprimer que par le cri. Et donc, au départ, la paroisse disait, les paroissiens disaient, qu'est-ce que c'est que cet enfant qui crie? Il dérange. Et puis, quelques temps après, on maintenait la présence de Martin. Et quelques temps après, peut-être que Martin, c'est sa façon de chanter. On avait déjà changé notre regard. Et puis un jour, Martin était malade, il n'est pas venu. Et tout le monde a dit, Martin est malade, on va aller lui rendre visite. Et donc ça a été le cheminement de la paroisse vis-à-vis de la personne en situation de handicap. Et je pense que chacun a vraiment progressé grâce à la présence de Dominique, certes, mais grâce à l'ouverture qu'on a pu donner à Martin et à d'autres, à Jean-Philippe qui est non-voyant, à d'autres, à ceux qui sont en fauteuil, la première place. Et maintenant, c'est même pas un handicap, c'est une façon naturelle qu'eux, ils ont la première place. Et quand il y a quelqu'un en fauteuil roulant, il y a au moins deux rangs qui restent assis toute la célébration pour dire « on est avec toi à la même hauteur, on ne va pas te dominer, on est avec toi ». Et ça, c'est un geste qu'on avait fait avec notre fille et que tout le monde fait maintenant. S'il y a un fauteuil, les deux premiers rangs restent assis avec lui. Voilà.
Je peux même vous dire que le prêtre de la paroisse a été aussi sensibilisé au handicap. Il nous répète bien souvent, sans vous, j'aurais peut-être pas la même sensibilité par rapport aux personnes porteuses d'un handicap. Et vous m'avez sensibilisé, mais dans le bon sens du terme. Par le fait que toi, Dominique, tu portes un handicap, par le fait que ton épouse, elle t'aide, vous m'avez aidé à voir ce monde et peut-être à mieux l'accueillir.
Vous avez un peu éveillé par votre témoignage.
Voilà.
Changer les regards.
Voilà.
Est-ce que donc là, c'est au sein
de votre... Et c'est un de nos rôles fondamentaux, diacre. Être diacre, ce n'est pas d'abord faire. C'est être signe, être témoin. Voilà.
D'accord. Donc vous remplissez ce rôle, en tout cas, à ce niveau-là, c'est sûr. Et donc là, effectivement, vous parlez à l'échelle de votre paroisse, donc des jolies histoires là, que vous nous racontez. Est-ce que, de manière plus générale, au sein de l'Église, vous sentez que les lignes bougent un petit peu? Parce que, voilà, on sent qu'il y a des familles qui n'osent pas trop revenir à la messe parce que leur enfant fait du bruit ou parce que des personnes elles-mêmes handicapées ne se sentent pas forcément à la première place, comme vous disiez, Astrid. Est-ce qu'en général, vous sentez que ça évolue un petit peu?
On sent que ça commence à bouger, mais c'est très, très lent. C'est très long. Je vous disais qu'à une certaine époque, on faisait pour. Là, maintenant, on essaye de faire avec. Je dis bien, on essaye de faire avec. Et le mieux encore, ça serait d'être avec. Voilà. De vivre avec la personne porteuse de handicap, d'aller la voir, de partager certains moments de sa vie. Et ça, bon, hein, on n'y est pas encore, malheureusement, je crois pas.
Les pas qu'on fait en église, ils sont vraiment encore très petits. C'est vraiment des pas d'enfants. Mais c'est pas d'enfants. Un enfant, il se casse parfois la figure quand il marche, quand ses premiers pas. On y arrive. On grandit en église avec cette situation, cette problématique, on va dire. On va y arriver. Mais bon, il faut beaucoup de temps. Pour construire un homme, il faut 20 ans. Bah, l'église en mettra peut-être davantage, mais elle y arrivera.
Ça reste optimiste. Et donc vous êtes, je le rappelais en début, à l'introduction, vous êtes responsable donc de la PPH, la pastorale des personnes handicapées pour le diocèse de Lille, depuis 2017. Oui. Et peut-être concrètement, voilà, comment vous arrivez à agir justement pour non plus faire pour, mais faire et être avec à votre échelle. Quoi mettre en place?
Alors bon, un exemple tout simple. Lorsqu'on organise des célébrations de pastorale de personnes handicapées, on essaye de mettre dans le coup un maximum de personnes porteuses de handicap. Mais ce que j'entends par mettre dans le coup, c'est qu'elles fassent partie de l'équipe de préparation. Attention, hein, ce n'est pas tout de dire à la personne « Bon, tu peux venir à telle célébration ». Ben oui, mais il n'y a pas que ça. Elles peuvent faire aussi partie de l'équipe de préparation et monter des projets et des choses. Voilà ce qu'on essaye de faire au niveau de la pastorale des personnes handicapées de notre diocèse, quoi. Bon, que ce soit une célébration, que ce soit une journée PPH, on essaye de mettre les gens un maximum dans le coup. Mais bien sûr, l'inclusion a ses propres limites. Parce que être inclus, c'est bien beau, mais il faut quand même que la personne, je vais être très clair avec vous, hein, que la personne elle soit un minimum fiable. Or, il y a malheureusement des handicaps où on ne peut pas compter sur la fiabilité des personnes. Hein, imaginez-vous qu'on la mette responsable de quelque chose et que le jour arrive et que cette personne-là ne puisse pas assumer. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pour l'inclusion, mais dans la limite des capacités et des possibilités de chacun. Voilà. Et si on sent qu'une personne n'est pas, entre guillemets, fiable, à cause de son handicap, c'est pas grave. On la met dans le coup le jour même ou tout ça. Elle sera quand même incluse. Mais il faut faire attention aussi. Hein. Il ne faut pas faire de l'inclusion à light motif. Non. Il faut vraiment respecter chaque handicap et chaque personne, chaque limite. Chaque compétence aussi, c'est important.
D'ajuster, d'être à la bonne place, enfin que chacun soit sa bonne place pour donner du fruit. Voilà.
Et avec la personne en situation de handicap, on peut pas tellement en anticiper. On la prend au moment où elle a envie de parler, où elle a envie de faire. On peut pas tellement anticiper. Mais quand ils peuvent participer, par exemple lire une prière universelle pour ceux qui savent lire, ils sont super heureux. Mais il ne faut pas leur dire 3 jours avant, sinon ça va être un stress, ils ne vont pas être bien. Donc voilà, on est toujours derrière eux, bien sûr, si au moment venu, ce n'est pas possible. Mais voilà, ils sont très, très heureux, mais sur le coup, quoi.
Quant à l'adaptation des bâtiments aux normes en handicap, on en est encore très, très loin. Je suis très clair. Il y a eu une enquête qui a été faite par Patrick Talhomme, dont je vous avais parlé lors d'une précédente conversation. Là. Et donc, ça montre bien quand même qu'il y a encore pas mal de bâtiments d'église qui ne sont pas accueillants, par exemple, aux fauteuils, aux roulants.
Patrick Talhomme, peut-être expliquer qui est-il.
Oui, Patrick Talhomme, c'est une personne qui est porteuse d'un handicap, mais un handicap qu'il a malheureusement acquis suite à un accident de la route à l'âge de 26 ans. Il en a 36 actuellement. Et donc, c'est une personne qui fait un master à l'université de Rennes, un master en sociaux. Et donc, son sujet de master, c'est l'état des pastorales des personnes handicapées en France, dans les 37 diocèses de France. Donc il a essayé de mener une enquête, hein, Donc il a reçu 21 réponses quand même sur les 37 diocèses, bon, ce qui est quand même déjà bien. Et donc il en tire des conclusions. Et bon, bah, parmi ces conclusions, voilà, il dit que malgré tout, l'inclusion, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
Effectivement, l'inclusion dans le regard, dans les cœurs, mais aussi concrètement, voilà. Effectivement, voilà. Si on ne peut même pas accéder au bâtiment. Voilà.
Exemple tout bête, hein, pour accéder à la cathédrale de Lille, la cathédrale de Lille est entouré de quartiers qui sont pavés, des pavés à l'ancienne. Donc, imaginez-vous, vous déambulez avec un fauteuil roulant là-dedans. Patrick me dit, mais c'est impossible. Impossible. Parce que ça fait mal au dos, parce que ça vibre trop. Et tout ça. Et pourtant, notre cathédrale, il y a un magnifique ascenseur qui permet de vous porter au niveau, hein, de la nef, quoi. Hein, et tout ça. Mais c'est le pourtour, quoi. Oui. Donc, on est en train de se bagarrer un petit peu avec la mairie de Lille pour qu'elle mette des pavés, mais les plus plats possibles, pour que les personnes puissent déambuler avec un fauteuil roulant, quoi. Tout simplement. Mais ça se tient là. Ça se tient là. On est en 2021 et les gens ne pensent pas encore faire ce style de choses. Bon, quand je vois certains bâtiments avec des rampes d'accès fauteuil roulant, où il faut tourner sur 1,50 m de large à 180 degrés, bah je dis aux gens qui ont conçu, bah allez-y, mettez-vous dans un fauteuil roulant et faites le test. C'est impossible. Si la personne n'est pas accompagnée derrière pour pouvoir guider le fauteuil, c'est impossible. Surtout que ce sont des rampes d'accès en métal. Alors, je vous dis pas, quand il pleut en plus, ça dérape. Bon.
Oui, donc effectivement, ça dépasse le cadre de l'église. Bon.
Oui, mais bon, aussi, l'Église aussi doit mettre en œuvre des choses, et j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes handicapées qui fassent partie des commissions d'agrément. Voilà, voilà. Quand on a une rampe d'accès pour un fauteuil roulant à faire, mais qu'on mette quelqu'un avec un fauteuil roulant dans la commission qui va valider ou ne pas valider le projet. Et ça, que ça soit d'église ou pas, de toute façon.
Oui, voilà. Partout.
Voilà. Mais les deux sont fortement imbriqués, hein, vous savez. La société et l'Église, bon, bah, c'est fortement imbriqué. Hein.
Bien sûr. Et peut-être un peu pour conclure ce témoignage, mais voilà, en fin de compte, en quelques mots, qu'est-ce que serait l'Église idéale pour vous, pour tous les deux, et comment l'atteindre aussi un peu d'espérance.
L'Église idéale, ce serait que... On ne parle plus de la personne en situation de handicap, que ce soit quelque chose qui soit venu naturel. Voilà, ce serait déjà un point. Et que chacun puisse accéder aussi à la parole dans notre Église. Qu'on ne parle pas pour la personne, mais que la personne parle en son propre nom.
Voilà. Oui, bon, bah, et puis ça serait aussi une Église où les mentalités évolue simplement. On ne demande pas aux gens d'être parfaits au départ. C'est vrai que le handicap fait peur au départ, et c'est normal. C'est une réaction humaine totalement normale. Mais il faut accepter que les mentalités évoluent et que les personnes évoluent pour pouvoir accueillir et inclure le handicap, quel qu'il soit. Voilà, pour moi, l'Église idéale, c'est une Église où la mentalité serait sans cesse en évolution, en ce qui concerne l'accueil et l'inclusion du handicap.
Oui, et d'accepter de changer ce regard.
Voilà.
Ne pas être figé.
Voilà. Voilà, ne pas être figé, ne pas juger. Hein, comme disait Saint Jacques, tiens, c'est une lettre de Saint Jacques ce matin, dans les Lodes, là. Hein, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Voilà. Saint-Jacques.
Il faut l'appliquer. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, un grand merci Astrid.
Merci Guillemette, d'être venue à Templemar.
Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et voilà, d'avoir éclairé sur l'importance de donner la place et des responsabilités, comme vous disiez, donc d'être et de faire avec les personnes handicapées dans nos paroisses et dans l'Église tout entière. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombre et Lumière et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème de l'Église inclusive en vous procurant le numéro daté de septembre-octobre de la revue en allant sur www.ombre-et-lumière.fr.